Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 avec un sujet qui préoccupe les parents, les professeurs, les jeunes concernés, le décrochage scolaire. On fait le tour de la question ce matin. Ils sont 100 000 à quitter chaque année l'école sans diplôme. Sont-ils perdus pour la société? Comment leur redonner le goût du travail et de l'intégration sociale? Eh bien, pour sensibiliser le public à cette question, M6 lance ce soir le premier épisode de son docu-réalité, Le sens de l'effort, dont le concept s'inspire du service militaire. Lutter contre le décrochage scolaire, on fait le tour du sujet avec des témoignages de jeunes, de parents, de professeurs, de spécialistes de l'éducation. N'hésitez pas à nous appeler vous aussi si vous êtes concernés. Vos témoignages vont nous éclairer, Julie.
On vous écoute au 3921 et on vous lit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec des chiffres préoccupants, je vous le disais, 100 000 jeunes qui quittent l'école sans diplôme, sans qualification chaque année. Bonjour Marie Zesterle.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et spécialiste du décrochage scolaire. Ces jeunes ont donc effectué tout ou partie de leur scolarité pour rien ou si peu, au grand dam de leurs parents?
Alors, pour rien peut-être pas, parce que s'ils sont arrivés par exemple au niveau du baccalauréat ou à la fin d'un CAP sans l'obtenir, ils ont quand même suivi une scolarité et eu des acquis.
Oui.
Donc, ceci dit, c'est vrai que quitter le système scolaire sans le diplôme de fin de formation, c'est très dommage, parce qu'ensuite ça ferme les portes par exemple de l'université pour le baccalauréat et ça empêche une carrière professionnelle classique pour des diplômes professionnels.
Ouais, il faut donc s'appuyer sur les acquis obtenus. Bonjour, voilà. Claire Lacour.
Bonjour.
Vous qui êtes conseillère d'orientation, vous avez suivi ces jeunes décrocheurs pour M6 notamment. Le décrocheur, il vit mal cette situation pour la plupart de ceux que vous avez rencontrés.
Alors, en fait, c'est une situation d'échec dans laquelle ils vont se retrouver, donc ils se l'avouent ou pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de positif.
Il y a le sentiment de décevoir ses proches et de ne pas être en phase avec un projet, avec une envie aussi.
C'est une absence de désir aussi. C'est-à-dire que c'est plus de ne plus être en phase, c'est de plus avoir envie de rien en se disant on n'est pas capable, donc ce n'est même pas la peine d'essayer.
Oui. Je vais donner la parole à Yasmine dans un tout petit instant. Elle a 19 ans, elle nous attend du côté de Marseille. Mais j'aurais qu'on revienne juste, mesdames, sur ce chiffre qui ne baisse pas. C'est même une tendance de fond. Dans les années 70, il y avait 200 000 jeunes qui quittaient le système éducatif sans diplôme. Bon, c'est un peu mieux, 100 000 aujourd'hui. Mais ça reste un étiage, Marie Zesterle. Est-ce que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprimer et pour quelles raisons?
Alors, il y a eu quand même un progrès depuis le début des années 2000, hein, puisque quand la sortie sans diplôme a vraiment été comptabilisée et le décrochage, on était à 140 000 quand même. Donc, il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place par les différents gouvernements et ministères. Et on arrive aujourd'hui à un peu moins de 100 000 jeunes, ce qui est un nombre important, bien évidemment. Alors, savoir pourquoi et comment ça ne baisse pas plus, c'est une question qui appelle différents facteurs, en particulier la façon dont l'école française s'est constituée et le fait qu'elle est surtout, elle a surtout été construite dès le début et encore aujourd'hui, sans doute dans une large mesure, sur la réussite, les dégagements des élites, plus que sur un travail au niveau de la masse des élèves. Mmh. Alors, l'école française dégage bien les élites, si je peux dire. Il y a des élèves qui ont d'excellents résultats, avec une corrélation quand même forte entre le niveau social et les résultats scolaires. Il y a des inégalités sociales et scolaires qui sont vraiment importantes dans l'école française. Par contre, elle est à la peine, l'école française, pour aider les élèves qui sont en difficulté et qui sont souvent issus de milieux assez défavorisés socialement.
Et on verra comment les professionnels que vous êtes peuvent aider, notamment vous, la conseillère d'orientation Claire Latour, la cour des les professeurs, les parents aussi à cet effet. On va donc parler jusqu'à 11h des conditions pour lesquelles le plus souvent les jeunes décrochent et je voudrais qu'on commence avec donc le témoignage de Yasmine qui a 19 ans. Bonjour Yasmine.
Oui, bonjour.
Alors là, on va parler du décrochage après le bac. Hein, c'est exactement ce que pointait du doigt Marie-Estelle, c'est-à-dire que vous avez effectué une partie de votre scolarité, vous avez eu le bac et vous êtes inscrit en fac de psychologie. Pourquoi la psychologie?
Parce que c'est le domaine qui m'intéressait le plus, on va dire.
Oui, qui vous intéressait à ce moment-là, parce que vous avez quitté la
fac.
Voilà,
c'est ça.
Ouais. Vous avez quitté la fac après combien de semaines, combien de mois d'études?
Alors, très peu. J'ai quitté la fac au bout de 3 mois.
Oui. Et pourquoi?
J'ai quitté la fac parce qu'en fait, la fac, il faut être très autonome. Alors, on n'est pas surveillé, en gros, il n'y a pas vraiment d'absence. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à arrêter d'aller à l'amphithéâtre.
Oui.
Et après, j'ai pris une mauvaise habitude, j'ai perdu la motivation et au final, j'ai fini par ne plus y aller.
Et qu'est-ce que vous disiez lorsque vous sortiez au lieu d'aller sur les rangs de la fac et au lieu de bosser, tout simplement ? Est-ce que vous culpabilisiez à ce moment-là ?
Franchement, sur le moment, non, pas du tout.
Oui.
J'avais, on va dire, la flemme.
Oui, la flemme parce que, comme vous dites, la fac, il faut se prendre en main. C'est pas simple, c'est le grand bain, il faut se motiver au quotidien. Donc, vous ne pensiez pas du tout à votre avenir, à ce moment-là précis.
Exactement, franchement, je n'y pensais pas du tout.
Est-ce que vous aviez le goût des études avant ça, Yasmine ? Plutôt bonne élève, je veux dire ? Des facilités ?
Oui. Ouais. Oui, plutôt, ouais.
Et comment vous expliquez que vous avez perdu la confiance si vite, finalement ?
Ça arrive vite, hein, un décrochage. D'un coup, en fait, on peut perdre la motivation et ne plus y aller, en fait. Ouais. Ça arrive très, très vite.
Vous allez rester avec nous, Yasmine, pour échanger sur ce que vous faites aujourd'hui. Mais Claire Lacour, on peut être plutôt bon élève, avoir le bac, et puis tout d'un coup, en 2-3 mois, comme c'est le cas de Yasmine, lâcher.
Oui, je pense que c'est ce qu'on disait auparavant. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde. C'est pas, y a pas un profil du décrocheur, il n'y a pas un profil... Cette motivation, en fait, elle doit être appelée par le... Bah, enfin, on doit pouvoir aider les gens avec les élèves, pardon.
Oui.
Avec l'équipe enseignante, avec les parents, avec... La personne qui va décrocher, elle se sent plus entourée non plus. Donc, elle se sent plus épaulée, elle se sent plus aidée. Mais ça peut arriver à n'importe qui.
Oui, vos parents étaient près de vous, Yasmine, à ce moment-là, quand vous avez décroché, vous étiez à Marseille ?
Non, pas du tout. Je suis seule et mes parents, ils étaient encore. Du coup, c'est pour ça.
Ah ouais. Donc, vous n'avez pas eu aussi l'entourage nécessaire pour peut-être Marie-Esther pousser oui. Et exiger le retour à l'école.
Oui, alors effectivement, l'exemple de Yasmine est très intéressant. Alors, les filières psychologie et sociologie sont des filières où s'inscrivent beaucoup d'étudiants et où il y a énormément de décrochage.
Ouais.
Sans doute parce que, entre autres, psychologie, c'est assez flou finalement. Et les étudiants espèrent sans doute, dès le départ,
avoir
des données en psychologie.
Ouais.
Or, les études de psychologie sont assez austères, assez difficiles et renvoient peu aux entretiens psychologiques dès le départ. Ça vient longtemps après. En sociologie, souvent, ils pensent que ça va être facile. Mmh. Et pas du tout. Mmh. Alors que c'est une discipline comme une autre, une science humaine, qui comporte son corpus théorique et qui est assez rébarbative aussi au départ. Il faut apprendre des choses. Et du coup, les étudiants sont souvent très jeunes. Hein, ils se retrouvent du lycée où ils sont en général bien encadrés.
Oui.
Et à la fac où c'est le grand bain, les amphithéâtres, etc. Et du reste, un certain nombre d'universités ont compris ce problème de décrochage et organisent les étudiants comme en classe, avec des groupes d'une trentaine d'étudiants suivis avec des référents.
Des petits travaux dirigés. Hein,
voilà, beaucoup de travaux pratiques. Dirigés, oui. Des enseignants qui sont référents pour leur permettre justement cet encadrement. Cette suite dans la motivation pour leur expliquer aussi comment se passent les études.
Et aussi le sens de l'effort, pour reprendre le titre générique du docu-fiction qui commence ce soir sur M6, sur le décrochage scolaire en question. N'hésitez pas, vous êtes parent, vous êtes professeur, vous avez eu à gérer ce problème, vous pouvez témoigner au Standard Europe 1, 3921, on vous attend. Yasmine est avec nous toujours, elle a décroché après 3 mois passés en fac de psycho. Morin a arrêté l'école à 16 ans, il va venir témoigner aussi. Et le Standard vous est ouvert. On fait le tour de ce sujet jusqu'à 11h avec Julie.
9h, 11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Le tour de la question sur le décrochage scolaire. La suite avec Wendy Bouchard.
100 000 jeunes qui quittent l'école sans diplôme, chaque année sans qualification. Eric va témoigner, il nous appelle au 3921. Il est principal d'un collège à Brétigny-sur-Orge. Marie-Esther est avec nous, spécialiste du décrochage scolaire, sociologue. Claire Lacour est conseillère d'orientation. Et vous avez suivi, Claire Lacour, les jeunes décrocheurs pour le docu réalité de M6, premier numéro ce soir diffusé à 21h. Nous sommes encore avec Yasmine. Donc vous avez abandonné, Yasmine, la fac de psycho après 3 mois. Juste un petit mot, parce qu'il y a ceux qui peuvent... Vos parents sont en Corse, je ne sais pas si vous leur avez dit d'emblée que vous aviez quitté les bancs de la fac, mais comment vous avez fait pour assumer ne plus aller à l'école, à la fac, et continuer, je ne sais pas, à payer votre petit studio, votre chambre de bonne, enfin voilà, il y a toutes ces choses de la vie quand même qu'il faut assumer.
Alors, Sincèrement, je n'ai pas prévenu mes parents, en fait, quand j'ai... surtout ma mère, on va dire. Oui. Je ne l'ai pas prévenu quand j'ai commencé à arrêter, à plus aller à l'amphithéâtre. Donc, elle pensait que j'allais en cours normalement, enfin, comme une étudiante normale.
Oui.
Je mentais parfois aussi. Et je continuais à payer le loyer. J'avais travaillé l'été, donc j'avais fait des économies de côté. Et puis, j'avais des aides de la CAF aussi, vu que j'étais étudiante.
Oui.
Jusqu'au jour où j'étais obligée, j'ai un peu culpabilisé, on va dire. Et là, j'ai commencé à dire à ma mère que j'allais plus en amphithéâtre parce que c'était pas obligatoire et que j'en avais pas besoin.
Mmh.
Donc là aussi, il y a un peu une part de mensonge, on va dire, parce que je disais que j'en avais pas besoin alors qu'en réalité, si.
Mmh.
Et jusqu'au jour où je disais, maman, je vais arrêter, est-ce que tu es d'accord j'ai envie d'arrêter. Et elle voulait pas. Donc, en fait, j'osais pas lui dire
que vous aviez déjà arrêté.
Stoppé.
Ouais, ouais.
C'est ça.
Ouais, mais il y a cette culpabilité dont on parlait à l'initiale, Marie-Esther. Hein.
La culpabilité et l'esquive aussi. Mmh. Même dès leur un âge tendre, hein, les élèves qui sont en collège, quand ils sont en train de décrocher et que leurs enseignants se rendent bien compte, et quelquefois leurs parents aussi, ils sont souvent dans le déni.
Mmh.
Non, non, tout va bien, vous inquiétez pas, je vais revenir à l'école, je vais continuer. Et ça, alors là, du coup, le dialogue et l'échange entre les parents et leurs enfants et entre les professionnels de l'école, les enseignants, les conseillers principaux d'éducation, etc. L'élève est très important pour arriver à leur faire reconnaître aussi un petit peu la situation dans laquelle ils sont.
C'est déjà un premier pas. Ouais. Bah, on va voir, Yasmine, où vous en êtes aujourd'hui, parce que c'est le sens de l'effort. Vous participez à cette docu-fiction pour M6, ça commence ce soir. Claire Lacour, les décrocheurs n'ont pas, cela dit, quand ils quittent le système éducatif, l'envie ou la capacité d'entrer dans la vie professionnelle. Ce n'est pas forcément... la logique de leur raisonnement.
Non, ils ont une version un peu désabusée de tout. Donc l'idée, c'est pas non plus, c'est pas d'arrêter les études pour trouver un travail.
C'est
ne sais pas quoi faire de ma vie.
Ouais.
Et du coup, je me pose le plus souvent sur un canapé ou je sors la nuit ou bien. Mais c'est pas, il y a pas quelque chose de constructif dans le fait de. C'est pas arrêter quelque chose pour commencer quelque chose d'autre.
Ouais. D'où la nécessité de remettre des valeurs, de l'effort dans tout ça.
Oui,
et voilà pourquoi
on a rien sans rien
à cette émission. Eric, vous êtes avec nous au 3921. Bonjour Eric. Bonjour Eric et merci de témoigner. Vous êtes principal d'un collège à Brétigny-sur-Orge. Bonjour monsieur.
Bonjour. Exactement. Alors je voudrais témoigner pour une expérience que je mène depuis quelques années.
Oui.
Avant Brétigny, je l'ai menée à Évry.
Oui.
Et en fait, il y a des études qui ont démontré que l'absence du père aussi est un facteur de décrochage, en fait. Et donc, ce qui est intéressant, et l'expérience, je l'ai menée, hein, depuis 5 ans, je la mène, cette expérience.
Oui.
J'ai créé la soirée des pères, où je fais venir les papas, uniquement les papas, pour les sensibiliser par rapport à leur rôle dans le cadre du suivi scolaire. Et il y a des études qui l'ont démontré. Il y a des livres qui ont écrit, qui sont sortis. Je pense à celui de Stéphane Clerget sur nos garçons en danger. Parce que quand on va plus loin sur les chiffres des élèves décrocheurs, on observe qu'il y a majoritairement des garçons.
Ouais, 2/3 de garçons, 1/3 de filles, hein, très clairement.
Voilà.
Ouais.
Et donc, les spécialistes ont démontré que l'absence du père est aussi un élément au niveau soutien psychologique de l'enfant, de décrochage. Et à chaque fois, j'arrive à faire venir les papas.
Je peux vous assurer qu'il se passe au collège.
Ouais. Oui, oui.
Ah, ouais.
Par exemple, je fais venir les papas. Par exemple, j'ai un élève qui est en décrochage, on ne comprend pas tout, etc. Et que je fais venir le papa qui ne voit plus, ou alors un papa qui est présent, mais qui ne suit pas, en fait. Qui ne suit pas, qui n'accompagne pas. Parce qu'il faut savoir que la question du suivi scolaire aujourd'hui est majoritairement, le suivi scolaire est assuré par les mamans.
Oui, c'est vrai.
Pour diverses raisons.
Oui, c'est ce que vous avez constaté par expérience. Eric, quand les papas se retrouvent face à leur garçon, en l'occurrence, il y a une prise de conscience quand même. Et pour le coup, là, puisqu'on parlait de culpabilité, un sentiment un peu partagé de culpabilité?
Alors, je ne dirais pas de la culpabilité. C'est-à-dire que l'enfant se rend compte que son papa s'intéresse à ce qu'il fait.
Mmh.
Et à ce moment-là, le papa aussi se rend compte que le fait d'être présent, de simplement faire les devoirs, simplement dire à l'enfant, ben là, t'as bien travaillé, c'est bien. Ne pas être que dans le rôle éventuellement du père censeur,
oui, c'est ça.
Il se passe des choses.
Ouais, c'est très intéressant, Eric. Oui, allez-y, terminez.
Non, voilà. Après, peut-être qu'il y a des questions.
Non, oui, mais même dans l'échange avec nos invités, Maryse Estelle, vous êtes spécialiste du décrochage scolaire. C'est très intéressant ce que pointe du doigt Eric. C'est-à-dire ces jeunes-là qui feraient en sorte d'être en rupture avec leur père pour peut-être que leur père aussi prenne conscience du problème, de leur mal-être.
Alors ça, il faudrait le voir plutôt cas par cas, oui. C'est difficile de le savoir sur l'ensemble. Dans tous les cas, ce qui est tout à fait juste, c'est que ce sont fondamentalement les mères qui s'occupent de la scolarité des enfants, quelle que soit la catégorie sociale, et dans les milieux populaires, je l'ai constaté, mais de façon massive, oui. Souvent parce que les pères travaillent déjà, donc ils sont fatigués, ils ont des métiers qui les fatiguent beaucoup, et puis parce que culturellement, on considère que c'est à la mère de faire ça, c'est son travail. Et donc le père délègue à la mère ce travail. Si les parents ont plusieurs enfants, on peut imaginer ce que ça donne quand un ou plusieurs ont des difficultés scolaires. Donc je trouve que c'est une très bonne idée de faire venir les pères et de leur rappeler que leur rôle n'est pas uniquement un rôle de sanction.
Oui, c'est ça.
Parce que la sanction qui intervient sans accompagnement, ça marche mal ou pas du tout. Et donc là, je trouve que c'est très intéressant de voir que des pères peuvent être impliqués.
La soirée des pères que vous organisez dans votre établissement, une fois par an. Eric, c'est tout à votre honneur. Vous qui êtes principal d'un collège à Brétigny-sur-Orge et qui menez cette expérience depuis plusieurs années maintenant. Merci Eric. Morin va venir témoigner dans un instant. Il a arrêté lui l'école à 16 ans. Il voulait obtenir son CAP menuiserie mais il a jeté l'éponge. Alors pourquoi ? Eh bien, on en parle avec nos invités. Vous témoignez sur le décrochage scolaire et on tente de vous aider. Si vous êtes parent, n'hésitez pas à réagir. On est là pour vous soutenir et pour vous suivre, Julie.
Appelez le 3921.
11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Europe 1.
Le tour de la question sur le décrochage scolaire avec Wendy Bouchard et ses invités.
Avec mes invités, beaucoup d'appels pendant la pause et pendant la petite Angèle. Michel, Pierre, Valérie vont témoigner au 39-21 avec Maryse Estelle, spécialiste du décrochage scolaire. C'est le tour de la question qu'on envisage jusqu'à 11h avec ces 100 000 jeunes qui quittent l'école après le bac sans diplôme chaque année. C'est 3 millions de jeunes entre 18 et 24 ans qui n'ont pas de qualification. Et Claire Lacour, qui travaille dans un organisme de formation Skillagno, qui a été conseillère d'orientation pour les jeunes décrocheurs du docu-réalité de M6. Ça commence ce soir, le sens de l'effort. Je vais donner la parole à Morin dans un instant. On se disait pendant la pause, Maryse Estelle, qu'il serait bon d'avoir des chiffres typiquement de jeunes qui ont décroché en faculté après le bac. Les études universitaires sont quand même un réceptacle de décrocheurs.
Oui, tout à fait. Et c'est un véritable problème dans certaines filières où il y a une déperdition très importante. Je parlais de la psychologie, de la sociologie, mais aussi d'autres filières où les étudiants vont finalement sans trop savoir de quoi il s'agit. Et ça, c'est un problème qui est lié à l'orientation et qu'on retrouve aussi en amont dans l'orientation en fin de troisième, par exemple, où des élèves vont choisir une filière professionnelle sans trop savoir de quoi il s'agit. Par exemple, quand il y a des émissions sur les cuisiniers, super chefs, etc., on a tout de suite une flopée de demandes d'orientation
en pâtisserie,
boulangerie. Voilà, un effet médiatique, si je peux dire. Oui. Bon, alors qu'en fait, la formation de pâtissier ou de boulanger, elle est difficile, elle est ardue, les horaires sont des horaires souvent nocturnes, etc. Et les élèves découvrent la réalité une fois qu'ils sont dans les formations, ce qui peut expliquer le décrochage en lycée professionnel.
Une inadéquation.
Tout à fait. L'inadéquation entre, certaines manières, la représentation du métier et la réalité de la formation.
Bien sûr. On
a le même phénomène, au niveau universitaire.
Ouais. Pour illustrer ce que vous dites, on va prendre le témoignage de Morin, qui participe à l'émission de M6 sur le sens de l'effort dès ce soir, comme 22 autres jeunes. Bonjour Morin.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous dire, quel âge avez-vous d'ailleurs aujourd'hui, Morin?
J'ai 22 ans.
22 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez accepté ce projet télé ?
J'ai accepté ce projet déjà d'une, parce que j'avais envie de me sortir de ce décrochage surtout. J'avais vraiment envie de sortir de mon quotidien nul, quoi.
Oui. Vous dites nul avec des mots fermes et brutaux, parce que depuis l'âge de 16 ans, qu'est-ce que vous faites, Morin ?
Moi, j'ai quitté l'école, j'ai arrêté l'école à 16 ans. J'ai un peu travaillé à droite, à gauche, mais à 18 ans, j'ai tout arrêté. 17-18 ans, j'ai tout arrêté et j'ai plus rien fait, quoi. Mais ça a été très compliqué après pour moi pour la suite.
Ouais, vous vivez de quoi, du coup, aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je vis de quoi ?
Vous vivez de quoi, oui, puisque vous avez tout arrêté ?
Ah, je vivais beaucoup avec, grâce à papa et maman.
Oui, c'est ça. Vous êtes encore chez eux, pour le coup ?
Non, plus maintenant.
D'accord.
Plus maintenant.
Vous allez simplement nous dire, pour qu'on comprenne bien le décrochage, pourquoi vous avez tout laissé tomber alors que vous vous êtes orienté en menuiserie. Vous avez décroché avant d'obtenir le CAP. Précisément parce que vous vous sentiez plus en phase, Marie-Zestère l'en parlait tout à l'heure, avec ce métier, avec la formation liée à ce métier ?
Non, pas spécialement, c'est pas ce métier-là, parce que j'aimais bien travailler le bois et tout, c'est tout ça, c'est tout ce qui est scolaire que je n'ai pas du tout aimé, j'ai jamais aimé, c'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple tout bête, c'est par exemple quand on faisait la menuiserie, c'était bien en atelier, j'avais de très bonnes notes, c'est très bien, mais quand j'allais par exemple en dessin ou quoi, qu'on dessinait des pommes et des fleurs, ça m'intéressait pas du tout, vous comprenez ?
Bien sûr.
Donc en fait, il fallait suivre une ligne et pas bouger de cette ligne en fait. Et c'est ça qui me dérangeait un peu, c'est pour ça que j'ai tout arrêté.
Oui, c'est ce qu'on appelle la discipline ou le sens de l'effort. Hein. C'est pour ça que c'est bien que vous soyez un des candidats de cette émission. Parce que quand vous faisiez des dessins de pommes, etc., vous vous disiez pas, bon, je le fais pour le bien d'un métier futur qui sera le mien, qui me permettra peut-être de gagner de l'argent. Vous réfléchissez comme ça à l'époque.
Pour moi, ça me servait. Je sais que ça m'aurait pas servi. On aurait dessiné des plans pour construire des meubles. Ok, parce que j'étais en menuiserie, je voyais le rapport, c'était intéressant. Là, oui. Mais dessiner n'importe quoi, enfin non, je voyais pas le rapport.
Oui, Claire Lacour, c'est quelque chose que vous avez vu en suivant ces candidats dans cette émission comme conseillère d'orientation. C'est parfois le côté trop abstrait d'un certain nombre de formations.
Oui, et surtout, là, ils ne trouvent pas de sens à faire des efforts, justement. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi, s'ils font un effort, ça va les mener à quelque chose.
Oui.
Donc, c'est vrai que l'émission, c'est à cela de positif, c'est qu'elle peut montrer à tous les autres qui se posent la question de pourquoi ce n'est pas intéressant, qu'on n'a rien sans rien, et qu'avec de l'effort, on peut arriver jusqu'au bout. Et qu'effectivement, Morin aurait fait l'effort de faire sa pomme, même une pomme ratée, il aurait fini son CAP.
On va laisser tomber la pomme, Morin, mais je ne vous laisse pas tomber, vous. Le témoignage, on le poursuit juste après la pause et je ferai réagir Marie-Zestère sur le sujet, ainsi que nos auditeurs. À tout de suite.
Vous écoutez l'émission de Wendy Bouchard sur Europe 1 jusqu'à 11h. Nous parlons du décrochage scolaire. Comment inciter les jeunes à rester connectés à l'école ?
Oui, et Morin vient de témoigner, il est toujours avec nous. Il a arrêté l'école à 16 ans avant d'obtenir son CAP menuiserie parce que Marie-Zestère, vous qui êtes spécialiste du décrochage scolaire, il nous disait quelque chose de très juste et qu'il ne comprenait pas forcément la cohérence de ses études avec des dessins qu'il lui demandait de faire et qui n'avaient pas de rapport avec le travail du bois justement en CAP.
Oui, effectivement, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu de la part, en particulier d'élèves de lycée professionnel, qui disaient, mais ça ne me sert à rien, ça me sert à quelque chose, c'est-à-dire qu'ils voyaient l'utilité immédiate des matières, y compris par exemple disant, on apprend l'anglais, mais ça va me servir à rien.
Bon. Ouais.
Et je pense que là, il y a tout un travail qui est fait par les équipes éducatives et qui pourrait être renforcé pour faire comprendre aux élèves que la formation qu'ils suivent, discipline par discipline, ne sert pas forcément à quelque chose tout de suite, mais qu'ils en verront la cohérence plus tard.
Ouais.
C'est tout le problème de la culture générale, de la philosophie dont on parlait tout à l'heure, des mathématiques. Ça ne sert à rien les mathématiques. Si on vivait dans un monde sans mathématiques, on ne vivrait pas, littéralement. Elles sont partout. Sauf qu'il y a quelquefois des explications qui ne sont pas données aux élèves au départ et qui leur manquent. Et qui font qu'à un moment donné, ils vont être littéralement comme des, je dirais, des consommateurs, entre guillemets, qui vont dire ça je prends, ça je prends pas, ça je prends. Alors qu'il y a tout un ensemble, l'exemple de la pomme est amusant, mais il y a tout un ensemble qui fait qu'à la fin, ils peuvent comprendre effectivement pourquoi on leur a fait dessiner telle chose, pourquoi ils ont eu des cours de culture générale ou de français, et que ça servait à quelque chose.
Oui, mais c'est un peu ça, Morin, c'est-à-dire que vous ne compreniez pas vraiment le sens de tout ce qu'on vous demandait. Aujourd'hui, vous le comprenez ?
Oui, maintenant je le comprends.
Vous avez mûri, bien sûr. Ouais.
Totalement, exactement, bien sûr. Voilà, en grandissant, on comprend les choses et même on regrette certaines choses de pas les avoir compris, bien sûr.
Et oui. Qu'attendiez-vous à l'époque justement ? C'est peut-être qu'on vous encadre davantage, qu'on vous force davantage à bosser ?
J'attendais plus un suivi plus personnel que groupé. Malheureusement, c'est comme ça maintenant dans l'éducation, dans les écoles, c'est toujours plus groupé qu'individuel. Quand c'est individuel, c'est sûr qu'on comprend mieux, je pense.
Ouais. Michel nous écrit d'Aiguillon. Je suis vice-président et responsable familial rural. Nous récupérons des enfants qui sont en quatrième, qui sont en train de décrocher et nous les emmenons jusqu'au bac pro. Nous avons aidé beaucoup de jeunes dans l'encadrement individuel, précisément, Claire Lacour. Quand vous avez rencontré Morin pour la première fois, qu'est-ce qui vous a touché, frappé chez lui dans sa personnalité ?
Bonjour Morin. Je pense que c'est un garçon extrêmement intelligent. Et du coup, la première chose qui frappe chez lui, c'est de se dire effectivement, il a les moyens d'y arriver. Donc il faut qu'il se les donne. Il faut qu'il se donne les moyens d'y arriver. Parce qu'il pourrait faire absolument, enfin peut-être pas n'importe quoi, mais je pense qu'il a tout à fait les capacités à aller jusqu'au bout d'un projet personnel ou professionnel.
Oui, sauf que vous vous êtes dit aussi, Morin, à 16 ans, c'est pas grave, j'ai pas mon CAP, mais je trouverai du boulot, je me débrouillerai. C'est ça que vous vous êtes dit aussi ?
Un peu, oui, un peu, c'est sûr.
Ouais. Et malheureusement, à 16 ans, en France, sans qualification, on ne fait pas grand-chose, Marie-Esterlin.
On ne fait même quasiment rien. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marché, de bassin d'emploi pour les jeunes de cet âge-là. Et beaucoup de jeunes, effectivement, que j'ai rencontrés, que d'autres chercheurs ont rencontrés, pensaient qu'ils trouveraient du travail facilement. Ce qui est assez surprenant, quand on connaît quand même le contexte socio-économique dans lequel on est, dont on parle beaucoup, quand même, il reste toujours des jeunes qui ont besoin de passer par l'expérience. Et ça, c'est important, à mon sens, pour les questions de travail sur le décrochage, c'est qu'il y a des jeunes qui ont besoin d'une période de latence, c'est-à-dire qu'ils arrêtent à 16 ans, ils se lancent dans la vie. En général, c'est assez cuisant. Ils trouvent pas grand-chose à faire.
Les parents commencent,
les parents commencent à ruer dans les brancards parce que ils ont des gamins qui font pas grand-chose à la maison. Et petit à petit, il y a une maturation qui se fait. Et là, il y a des organismes qui prennent en charge ces élèves-là sur la base du volontariat, parce qu'il faut qu'ils soient motivés eux-mêmes et qu'ils fassent la demande. Par exemple, les écoles de la deuxième chance ou les micro-lycées, des établissements comme ça, qui peuvent prendre en charge des jeunes qui ont passé déjà plusieurs mois, voire plusieurs années.
Oui, mais entre même s'ils n'étaient pas en phase avec le système éducatif.
Oui, oui. Bien sûr. La condition générale, c'est de ne pas avoir été scolarisé pendant au moins 6 mois. C'est
d'accord.
La condition.
D'accord.
Et puis d'être motivé. Et du coup, après, à partir de là, il y a un programme qui leur est proposé et un encadrement. Et ce que vous disiez tout à fait important, un encadrement individuel.
Oui.
C'est-à-dire des référents
qui
peuvent parler avec le jeune, l'entendre dire des choses que des enseignants qui ont 30 élèves à suivre ne peuvent pas entendre, y compris des choses qui paraissent énormes, mais bon, il faut les dire et les travailler. Et qui peuvent les aider, effectivement, l'expérience que vous venez de citer est tout à fait intéressante à ce niveau-là.
Par exemple, pour lutter contre le décrochage, ce que vous auriez pu faire, micro-lycée, école de la deuxième chance, là vous avez cette émission, Le sens de l'effort, Morin qui arrive à vous, et on espère vraiment que ça sortira avec un beau projet pour vous à la clé. Merci de votre témoignage, Morin, sur l'antenne d'Europe 1. Merci.
Merci.
Bonne chance. Et bonne chance. On va se retrouver dans un instant avec Pierre qui veut témoigner au 39-21. Il a été conseiller en insertion professionnelle. Nous avons beaucoup, beaucoup d'appels, notamment Guillaume et Yann à l'instant. À tout de suite au 39-21 avec nos invités.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Je rappelle ce chiffre, ils sont 100 000 à quitter chaque année l'école sans diplôme. Alors pour sensibiliser le public à cette question du décrochage scolaire, M6 lance ce soir le premier épisode de son docu-réalité, Le sens de l'effort. Comment lutter contre le décrochage scolaire ? On fait le tour de la question ce matin jusqu'à 11h.
Oui, 100 000 sans diplôme, 3 millions de jeunes entre 18 et 24 ans qui sont oisifs, comme on peut les qualifier, c'est-à-dire sans travail, en tout cas sans travail régulier ou à temps plein. Nous avons beaucoup de témoignages, preuve que ce sujet vous préoccupe, parents, professeurs, jeunes aussi. Merci de parler en toute franchise. Pierre est avec nous au 39-21. Bonjour. Bonjour Pierre.
Bonjour Wendy.
Et merci de venir témoigner. Vous nous appelez d'où, Pierre ?
Alors, je vous appelle de Saint-Martin-d'Hères dans l'Isère.
Très bien.
Je vous envoie régulièrement des chroniques. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Je vous envoie des articles sur certains sujets de vos émissions.
C'est vous, Pierre. Je suis ravie de vous parler ce matin, alors. Merci beaucoup et merci de votre intérêt. Votre intérêt sur tous ces sujets-là. Vous qui avez été conseiller en insertion professionnelle.
Voilà. J'ai travaillé 20 ans dans une mission locale.
Oui.
Qui est un dispositif qui existe depuis 38 ans, depuis 82. Et qui est extrêmement adapté pour des jeunes décrocheurs, ou du moins des jeunes qui sont sortis de l'école un petit peu par la petite porte, qui ont des difficultés d'apprentissage intellectuel, et qui pour qui il fallait trouver une structure qui leur permette de faire des chemins un peu parallèles, un petit peu diversifiés, qui leur permettent des apprentissages plus techniques, voire plus diversifiés en termes d'état d'esprit par rapport à la pure ligne intellectuelle de l'école.
Oui.
Ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que quand je voyais ces élèves dans mon bureau, je me disais,
Mais finalement, ils auraient pu être déjà accueillis par des psychologues d'orientation au cœur même de l'école, par des séances déjà de débriefing, d'approfondissement de leur intérêt, et puis même de résolution de difficultés psychologiques, familiales, affectives et autres, pour justement qu'en arrivant en troisième, voire un peu plus, ils puissent être plus armés pour s'orienter correctement.
Ouais.
Et puis, d'autre part, j'essaie de faire vite, d'autre part, il y a la surcharge des classes qui ne permet pas aux profs de travailler dans des conditions optimales. Ils sont complètement débordés, ils ont un programme à tenir qui formate intellectuellement finalement qu'une seule partie des élèves qui sont prédisposés pour ça, et vous avez une quantité d'élèves qui restent sur le bas-côté. Et ce sont ces élèves-là qu'on croit inintelligents, entre guillemets, alors qu'en fait, ils ont simplement une forme d'apprentissage différente qui mérite un suivi individualisé plus empathique, donc dans le sens rogerien, Carl Rogers, et plus zone proximale de développement dans le sens Vygotsky, je suis psychologue en même temps.
On le sent, cette nécessité d'empathie et d'individualisation du suivi. Enfin, vous l'avez très bien dit, Pierre, et ça rejoint ce qu'on évoquait un peu à l'instant avec nos invités, alors que ces classes surchargées provoquent, hélas, bien le contraire dans une majorité de cas. J'aurais vous rester en ligne, Pierre, pour entendre avec nous le témoignage de Yann. Yann, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes papa d'un enfant décrocheur. Alors, ça a commencé très tôt pour lui, racontez-nous.
Ah oui, il est décrocheur, mais c'est pas une question de volonté, en fait.
Oui.
Lui, il est décrocheur du fait d'une phobie scolaire. Ça a commencé de façon assez précoce en maternelle, ça a disparu un peu, c'est revenu en CM2, et ça a éclaté en quatrième.
Et donc, ça veut dire quoi, de la phobie scolaire en quatrième, par exemple? Comment ça se concrétise, Yann?
Comment ça se concrétise? Ben, le matin, c'est des grosses angoisses de séparation, ouais. Des tremblements, des pleurs, avec des parents qui comprennent rien, qui crient ou qui pleurent aussi, enfin c'est...
Oui, vous pensez à des caprices alors que c'est un mal-être profond, quoi.
Bah, on a mis énormément de temps à comprendre ce qui se passait, en fait, et lui aussi à comprendre ce qui se passait en lui-même, quoi.
Oui. Jusqu'en quatrième, comment sont ses résultats scolaires?
Bien, dans le sens où on n'avait pas à intervenir, donc c'était un enfant assez qui reste assez intelligent, avec de grosses capacités. Sauf que, bon, il y a des angoisses de séparation avec une très grande sensibilité, en fait, derrière.
Oui. Comment vous avez été suivi sur ce sujet et aujourd'hui, comment ça va? Il a quel âge, votre enfant?
Mon fils a 17 ans et on a suivi un peu un parcours du combattant dans le sens où il n'y a personne qui vous prend la main quand on est dans ce genre de situation, en fait. Moi, il se trouve que je suis travailleur social et que je fais de l'insertion avec des adultes, donc j'ai un peu une
sensibilité.
Ouais, et puis une vision à peu près de ce qui peut se passer en offre professionnelle à ce niveau-là. Et ça nous a aidé, mais je pense à des parents qui auraient pu être un peu plus démunis et pour qui ça peut être la galère. En fait, ça a été le parcours classique, hein, psychologue, pédopsie, test de psychométrie pour voir s'il était précoce ou pas. Il se trouve que c'est un enfant qui est dans une courbe d'intelligence moyenne harmonieuse.
Ouais.
Que tout se passe bien.
Est-ce qu'il a quitté le système scolaire ou est-ce qu'il est allé jusqu'au bac?
Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait un début de première, il a fait un demi-trimestre, qui s'est très bien passé parce que j'étais derrière lui pour les leçons.
Mm-hmm.
Il a complètement décroché après la Toussaint.
Ouais.
Et donc, ça a remis une tension énorme au sein de la famille et de la maison, puis on a décidé de déscolariser.
Ouais.
Parce que, on arrivait un peu au bout des solutions. Et du coup, je rejoins un peu Pierre pour ce qu'il disait là. Donc, on l'a inscrit à la mission locale de secteur là,
ouais.
Et il va bénéficier d'un accompagnement individualisé.
Ah bah voilà, ouais. Voilà. Donc il a décroché l'année dernière, c'est ça, ou il y a quelques mois en tout cas?
Début d'année. Là, on
début
a
d'année, d'accord.
Voilà.
Parce que c'était la meilleure solution. Là, on était dans un carcan manifestement. Et aujourd'hui, avec les missions locales, est-ce qu'il s'épanouit un peu plus? Est-ce qu'il voit un peu son avenir?
On est en début du suivi de la mission locale et on attend qu'il rentre sur un dispositif qui est proposé par un organisme de formation.
Mmh.
Ça va durer 4 mois et demi. Ça va lui permettre en fait de travailler de façon individuelle sur qui il est, vers où il veut aller. Et ça sera à base de stage, en fait, en entreprise.
Ouais, très bien. C'est vraiment un témoignage fort sur ce parcours du combattant. Claire Lacour, ça rejoint un peu ce que vous faites, vous, avec votre organisme de formation. à distance, c'est pas mal pour tous ces jeunes qui ont eu vraiment maille à partir avec le système éducatif, voire des phobies scolaires, comme le fils de Yann, parce que voilà, on peut étudier, mais à la maison, en tout cas dans une structure qui n'est pas l'école.
Voilà, je pense que la phobie scolaire ou le décrochage scolaire résulte pour la plupart de ces enfants dans une aversion, en tout cas, du système éducatif traditionnel.
Oui,
donc
oui.
Il va falloir les remettre sur les rails, et ce qu'il a new, enfin la société pour laquelle je travaille, donc ne fait que de l'enseignement à distance qui permet aux gens de travailler par ailleurs, donc de gagner leur vie et de suivre des parcours de formation ou de préparer des diplômes. Hein. C'est à leur rythme et à n'importe quel moment. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre le mois de septembre ou d'avoir quelqu'un qui vous prenne en charge. Donc on a bien sûr un accompagnement avec ça, puisque c'est ce que tout le monde a dit, là, tous les intervenants. S'il n'y a pas un entourage ou une forme de coaching ou d'accompagnement, personne n'est parfait. Au bout d'un moment, la motivation est perdue, quel que soit le niveau de formation.
Ouais, petit mot, Marie-Estelle, sur la phobie scolaire et sur le témoignage de Yann et de Pierre.
Oui, alors je les trouve très, très significatifs, parce que pour moi, ça appelle à la question de la formation des enseignants. Parce que quand même, Yann nous dit que son fils a eu des problèmes dès la maternelle. Ouais, il y avait des signes dès la maternelle.
Ouais.
Et là, moi, bon, j'ai beaucoup travaillé avec les enseignants justement sur la détection de ces problèmes-là. Et je pense que là, l'école classique, enfin publique, a vraiment un gros travail à faire pour former ses professionnels, les enseignants, sur la détection des difficultés. Et doit les outiller à ce niveau-là. Et là, vraiment, je pense qu'en formation initiale, en formation continue, il y aurait beaucoup de choses à faire de façon à ce que le cas du fils de Yann puisse être pris en charge et entendu à l'école et qu'il ne se retrouve pas au collège dans une explosion quasiment d'un décrochage, comme ça s'est produit.
Par exemple,
il y a encore des élèves dyslexiques qui sont détectés très tard.
Ouais. Bon, on faisait une émission, la dyslexie, la dyspraxie,
ce qui n'est pas normal. Ils devraient être détectés beaucoup plus tôt et pris en charge beaucoup plus tôt, et quand ils sont pris en charge tôt, en général, ça se passe bien. Mais pour ça, faudrait-il encore que les enseignants soient bien formés.
En tout cas, l'intérêt de cette émission et de vos témoignages aujourd'hui, des témoignages de Yann, de Pierre et de Guillaume dans un instant, 39-21. Merci beaucoup, messieurs, parce que vous faites évoluer aussi les mentalités sur le sujet, et peut-être des auditeurs se retrouvent aussi dans ce que vous venez de dire. Petit tour de la question encore pendant quelques minutes jusqu'à 11h sur Europe 1. On vous donne la parole.
Europe 1.
Retour au sujet du jour pour quelques minutes encore, Wendy. Il est presque 11h et nous parlons du décrochage scolaire.
Comment aider à prévenir ce décrochage à l'école? 100 000 jeunes qui sortent après le bac sans qualification, 3 millions de jeunes qui sont dans une situation complexe aujourd'hui, sans boulot, sans diplôme. Comment les aider? Marie-Estelle est avec nous, sociologue et spécialiste du décrochage scolaire. Claire Lacour travaille dans un organisme de formation, Skill Agneau, et elle est conseillère d'orientation pour le docu-réalité de M6. Premier épisode ce soir, ça s'appelle Le sens de l'effort, M6 qui suit donc des décrocheurs. Et vos témoignages ont été très nombreux et très intéressants pour éclairer cette actualité. Je poursuis et je terminerai avec Guillaume qui nous appelle de Saint-Pierre-du-Lorouër. C'est dans la Sarthe, si je ne m'abuse. Bonjour Guillaume.
Bonjour Wendy, la Sarthe profonde.
La Sarthe, oui, absolument. Belle Sarthe, j'adore ce département. Vous qui êtes directeur d'un établissement agricole, racontez-nous pourquoi le sujet du décrochage scolaire vous préoccupe, Guillaume.
Alors, il nous préoccupe parce qu'on s'aperçoit que dans l'enseignement agricole, qui est un enseignement professionnel, on avait vocation à accueillir des jeunes qui arrivaient déjà pas mal malmenés par le système scolaire et qui étaient, pour ainsi dire, prédisposés au décrochage.
Oui.
Et on a adhéré, il y a 4 ans déjà, à un programme européen qui s'appelle le Parcours pour la réussite, qui est intéressant en ce qu'il intervient en amont du décrochage, dès les classes de 4e. Effectivement, il met tout un système en place à la fois de détection et un système qui va avoir moins d'écoles, mais avec pour mieux d'écoles, si j'ose dire.
Oui.
C'est-à-dire chaque élève va avoir un contrat individuel particulier en étant délesté d'un certain nombre de cours en fonction de son profil, de son projet. Et en lieu de cela, il va y avoir énormément d'activités parallèles. Ça peut être de la sophrologie, par exemple, pour aider à la gestion du stress. On a un atelier qui marche du tonnerre de Dieu, qui est un atelier de couture, qui est extrêmement performant pour nos élèves hyperactifs.
Ah, c'est drôle. Et garçon comme fille, garçon comme fille, pour ne pas faire de sexisme.
Garçon comme fille, avec toujours la prévalence que vous signalez, hein, de 3/4 en quart ou de tiers en tiers de garçons. Mais les garçons marchent très bien parce qu'en fait, dans cet atelier couture, ils composent les costumes que l'ensemble des élèves du dispositif vont avoir pour le spectacle de théâtre de fin d'année.
Ah, bien.
Donc l'idée aussi, c'est de les rendre à la fois un peu acteurs et un peu fiers de ce qu'ils font.
Ouais,
c'est... Il y a un groupe de garçons pré-décrocheurs comme ça qui ont d'énormes difficultés à l'écrit avec des dyslexies, des dysgraphies, des choses comme ça, détectées ou mal détectées, peu importe, qui sont en charge de toute la communication vidéo de l'établissement. Mmh. Ils s'expriment avec une caméra ou un vidéoscope à la main et pas nécessairement avec un stylo.
Bravo, parce que vous avez fait du sur-mesure dans votre établissement. On peut citer votre établissement agricole ?
Il s'appelle Nazareth, absolument, à Ruillé-sur-Loire.
Ah ouais. Bravo, parce que voilà, il faut aussi le temps, la connaissance, manifestement, Guillaume, là, puisqu'il s'inscrit dans ce parcours de la réussite européenne, Marie-Esther.
Oui, effectivement, l'enseignement agricole est un enseignement qui a, enfin, le champ de l'enseignement agricole est un champ qui a beaucoup travaillé sur la question du décrochage. Et j'ai travaillé avec eux il y a quelques années et j'avais remarqué que dans les établissements agricoles, il y avait beaucoup d'activités qui permettaient aux élèves d'avoir le sentiment d'appartenir à un groupe, ce qui est fondamental pour la prévention du décrochage et qui permettait aux élèves aussi de revenir sur des apprentissages qui n'étaient pas bien acquis, etc. Donc là, je trouve que cette expérience est tout à fait intéressante puisqu'elle donne une place entière à des élèves qui, dans un autre cadre, auraient pu être considérés comme quasiment handicapés.
Ouais, tout à fait.
Alors qu'ils ne le sont pas du tout et qu'ils peuvent réaliser des choses en vidéo et en couture.
Bravo.
Et là, c'est
tout
je
à
pense
votre
que
honneur.
C'est vraiment, ce sont là des pistes qu'il faudrait faire connaître et développer. Parce que souvent, la question du décrochage commence très tôt. Et un élève qui décroche en première ou en terminale, en général, à part un accident biographique comme la mort d'un proche, etc., mais sinon, en général, ça a commencé très tôt. Et on voit bien qu'il y a des choses qui auraient pu être faites en amont et pour prévenir ces décrochages.
D'où la nécessité de l'orientation, puis ensuite, bien sûr, de l'insertion professionnelle, de l'orientation. Mot de la fin, Claire Lacour, parce qu'on vous retrouvera aussi dès ce soir dans Le Sens de l'Effort sur M6 pour... offrir vraiment une grande écoute à ce sujet de décrochage scolaire. On a commencé à le faire sur Europe 1. C'est un sujet de service public aussi.
Oui, et puis je pense, enfin, le décrochage, il y a pas de mauvais moment pour s'en occuper. On en a parlé, bien sûr, plus c'est tôt, mieux c'est. Mais je pense qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide autour de soi et que
il y a pas de honte.
Il y a pas de honte, au contraire. Et avoir l'envie, c'est déjà se donner les moyens de réussir et de se battre.
Merci Claire Lacour, merci Marie-Esterle et merci à tous les témoignages très nombreux. C'est vrai, on les a notés essentiellement masculins, c'est comme ça. Merci ma chère Julie, à demain sur Europe 1 pour le tour de la question.
C'était Wendy
Bouchard. Merci à vous tous.